Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et comme tous les premiers mardis du mois, nous allons prendre des nouvelles du monde syndical.
La pause syndicale.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir Fabien.
Et bonsoir Fabio.
Bonsoir.
Oui, pour cette quatrième édition de l'année, avec vous deux, Valérie et Fabio, et puis notre invité, nous allons plonger dans le milieu de la musique cantonale, puisqu'il semblerait que les professeurs de musique ont le blues, Valérie.
Oui, Fabien, c'est le cas, puisque à cause de restrictions budgétaires prévues en 2017, les places en école de musique seront limitées, tout comme le salaire des enseignants, qui sont plus de 700 dans le canton.
Oui, effectivement, et pour en parler, nous avons invité un de ces enseignants, professeur de théorie musicale et concertiste, actif dans le milieu depuis plus de 30 ans.
Et engagé au sein du syndicat des services publics dans le groupe de l'AVEM, l'association vaudoise des enseignants de musique. Et depuis 2005, il fait partie également de la délégation des employés chargée de négocier une convention collective de travail pour l'ensemble des enseignants et enseignantes de musique du canton, convention qui n'est pas encore sous toi. Bon, bonjour Loris.
Bonjour.
C'est bon, Kion. J'écorche un peu votre nom, je m'excuse. Être musicien et enseignant en école de musique, ça ressemble à quoi ?
Ben, ça ressemble à beaucoup de choses. Bon, d'abord, c'est un métier qu'on aborde par passion et avec beaucoup d'engagement. Mais c'est aussi un métier qui est exigeant, qui est difficile. Alors, il faut déjà avoir la manière d'y accéder, hein, parce qu'il faut déjà avoir un très bon niveau pour entrer dans une autre école, c'est-à-dire une longue pratique déjà musicale avant, une bonne dizaine d'années au moins, et puis aussi des aptitudes particulières. Ensuite, on entre dans une autre école et on fait un système qui est devenu équivalent au système universitaire. Donc, on fait un bachelor en 3 ans, qui ne nous permet pas d'enseigner. Et ensuite, on fait un master en 2 ans. C'est un master de pédagogie, donc pas un master de concert. C'est le master de pédagogie qui permet d'enseigner dans les écoles de musique du canton. Donc, ça rajoute 5 ans d'études à tout ce qu'on a fait avant. Donc ça, c'est la première chose. Puis ensuite, bien voilà, c'est le travail du quotidien, c'est les élèves, c'est des enfants et des jeunes qui ont, et aussi des adultes. Donc finalement, on a des petits qui ont 6-7 ans et on va jusqu'à... voilà.
De 9 ans. À 99 ans.
Oui, c'est ça. Voilà. De 7 à 99, si on veut. Tout à fait. Donc c'est aussi des horaires irréguliers. On travaille plutôt hors des heures scolaires, donc on finira tard le soir. Comme ce soir, par exemple, je finirai à 21h30. Mais je ne suis pas le seul, on est beaucoup, on a l'habitude, disons, de le faire, mais c'est aussi une certaine contrainte. Surtout si vous voulez aller écouter un concert, donc vous ne pourrez pas le faire. Et puis, il y a aussi la question, dans cette manière souple, des travails de samedi aussi, évidemment, le dimanche. Il y a souvent des examens, des auditions d'élèves ou des manifestations particulières qu'on doit suivre. Il y a le contact avec les parents. Bref, c'est un métier qui demande beaucoup de souplesse, de dynamisme et d'engagement pour son quotidien.
Et tout cela à combiner, si j'ose dire, avec en plus votre activité de musicien en concert et des choses comme ça.
Oui, alors il faut dire, c'est un métier quand même à part entière. Ça, on tient toujours à dire que le métier d'enseignant, c'est un métier. Donc, il y a des enseignants qui jouent peu, d'autres qui jouent plus. Alors, évidemment, il faut garder le contact avec l'instrument, c'est important. Mais en même temps, on ne doit pas dire, parce que la tendance politique serait de dire oui, mais alors à ce moment-là, c'est un à côté, et ce n'est pas vrai. On a enseigné, ça demande vraiment une énergie pleine. Donc, après, effectivement, on peut faire un temps partiel et essayer d'avoir une activité aussi à côté pour, disons, nourrir son travail, ça, c'est sûr. Et ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est qu'on a des salaires qui sont fluctuants. Donc, d'une année à l'autre, on ne sait pas du tout quel revenu on aura, puisqu'on est payé à l'heure.
Oui, alors expliquez-nous justement, parce que tout le monde se plaint finalement que les salaires, enfin, quand on va faire de la musique, ça coûte cher. Comment ça fait que vous ne gagnez pas du coup beaucoup d'argent, vous ?
Alors, effectivement, si je me mets à la place des parents, surtout actuellement, vu que les écolages ont tendance à prendre l'ascenseur, c'est vrai que c'est cher. Alors, il faut reconnaître que l'enseignement n'est pas totalement subventionné, comme l'école publique est totalement subventionnée. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc il y a une part parentale qui est assez forte. On compte à peu près, un peu plus de 40% quand même, qui est la part des parents. Donc on est dans un système qui est parapublic, semi-privé, on va dire, et le reste est partagé entre les communes et l'État, de manière paritaire. Mmh.
Loris, une loi sur les écoles de musique a été présentée en 2011. Sur quoi elle porte et quel est son objectif?
Alors, premier objectif, c'est d'arriver à une situation qui soit harmonieuse dans tout le territoire cantonal. Parce qu'avant, on avait vraiment une disparité incroyable. Si vous enseignez à la Vallée de Joux, vous étiez payé 3000 francs bruts par mois. Et puis, si vous étiez au Conservatoire de Lausanne, vous étiez payé trois fois plus. Donc, c'était une inéquité qui n'était pas acceptable. À formation égale, on voulait qu'il y ait des conditions de travail qui soient égales. Et aussi favoriser les régions, parce que beaucoup de collègues, moi j'en ai connu beaucoup il y a des années.
Qui ne veulent pas aller travailler.
C'est la première occasion, ils s'en vont. J'ai commencé à enseigner à Avenches, après j'étais à Moudon, puis après j'ai fini sur l'Arc Lémanique, vous voyez.
Ouais.
Et ce n'est pas bon pour les élèves, parce qu'on commence, ça fait 3-4 ans, on commence à construire une classe, mais on a des conditions tellement précaires. Moi je recevais mon salaire tous les 6 mois à l'époque, et c'était très très bas. Donc ça n'allait pas. Donc du coup, on s'en va. Il fallait éviter ça pour que les enfants de toutes les régions puissent avoir un enseignement de qualité.
Parce que sinon, il y a aussi une sorte de concurrence un peu entre ces écoles. Enfin, concurrence dans le sens, j'ai pas envie d'aller travailler à la Vallée de Joux parce que je suis payé deux fois moins que...
Tout à fait. On va dire concurrence déloyale.
Il y avait des
communes qui faisaient un effort supplémentaire que d'autres ne faisaient pas.
Ouais.
Puis la part étatique était assez faible à l'époque. Donc la loi, c'était vraiment pour mettre de l'ordre là-dedans et puis sortir aussi les enseignants de la précarité, parce que quand vous gagnez 3000 francs par mois, vous n'allez pas très loin en Suisse. Et c'était des situations très difficiles. On n'avait pas de LPP non plus. Donc, on est toute une génération de professeurs qui n'auront quasiment pas de retraite.
Pas de vente professionnelle. Ouais.
Parce que la LPP est venue beaucoup plus tard.
Ouais.
On n'arrivait pas parce qu'on a toujours plusieurs postes cumulés. Évidemment, quand tu dis à un employeur, oui, mais je travaille à plein temps, mais j'ai 5 heures ici, 7 heures là, je n'avais pas le minimum de ces fameux 20 000 francs qu'il faut avoir pour entrer dans le système de la LPP. L'employeur n'avait pas l'argent, finalement, donc on n'en avait pas. Et d'ailleurs, au moment de la loi, il y avait même certains collègues qui n'avaient pas d'AVS.
Ah.
Donc,
c'est dire.
Il y avait,
c'est dire, ouais.
Donc, il fallait faire une correction urgente de la situation et puis sortir ces enseignants de la misère.
Donc, cette loi, elle a été présentée en 2011. Elle a été négociée par qui ?
Au départ, on a fait beaucoup de... Bon, on a fait des manifestations, on a fait beaucoup de lobbying. On a créé un réseau aussi politique qui était assez dense à l'époque. Et puis, on a aussi réussi à faire passer, là, c'était avant la loi, surtout avec le soutien très fort de Raphaël Main et puis d'Olivier Feller à l'époque. Donc, c'était ces deux députés qui ont beaucoup engagés pour faire passer une aide d'urgence d'1,5 million. Ça, c'est un premier signal. Le Grand Conseil a donné aussi au Conseil d'État en disant, voilà, c'est important, on doit soutenir l'enseignement de la musique, il n'y a pas d'argent, alors on débloque une aide d'urgence d'1,5 million. Donc, ça, on avait fait un calcul... Moi, j'étais parti de l'idée qu'il y avait à peu près 15 000 élèves dans le canton. Alors, on compte un soutien de 100 francs supplémentaires par élève, ce qui fait une enveloppe à peu près d'1,5 million. Et ça a passé, donc c'était un premier signal positif. Puis après, on a avancé donc, avec ce lobbying et on a eu vraiment un groupe de députés très fort. On a organisé des tables rondes avec différents partis pour essayer vraiment d'expliquer ce que c'est que notre métier, quels sont nos besoins. Et puis, on va dire, la mayonnaise a pris, comme on dit.
Un travail de fond, vous avez fait.
Oui, énormément. Et puis, alors, quand il y a eu ce... Ensuite, il y a eu donc une rédaction du texte, etc., qui a été faite par les juristes et par Anne-Catherine Lyon, évidemment, qui a soutenu le projet à l'époque.
Alors, depuis l'adoption de cette loi, et puis pas plus tard que la semaine dernière, les enseignants de musique ont fait entendre à plusieurs reprises leur mécontentement. Qu'est-ce qui vous fâche ?
Ce qui nous fâche, c'est qu'on a fait une loi qu'on a bien fêtée, du reste, peut-être trop tôt, mais enfin. Ensuite, on nous a dit non, la loi, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour 2018. Ah bon, pourtant, on est en 2011. Oui, mais enfin, on est en pays de Vaud, n'est-ce pas ? Il ne faut pas aller trop vite. Donc,
allons.
Ils nous ont promis une mise en application sur 6 ans. Alors, ça, c'était déjà douloureux.
C'est une valse triste.
Ça faisait 30 ans.
Mais ça veut dire concrètement que sur les 6 ans, rien, nada.
Non, ce n'est pas ça, c'est comme les marches d'escalier, c'est une montée en puissance.
Oui.
Voilà, pour employer. Alors, cette fameuse montée en puissance, n'est-ce pas ? Alors, ça a bien commencé. C'est vrai, en 2012, on a eu le premier palier. L'idée, c'était de rattraper les salaires, mais pas d'un coup. Et de peu à peu, d'arriver à un niveau qui était un équivalent d'un enseignant primaire, ce qui est de toute façon pas un équivalent master, mais voilà, par rapport où on était, c'était déjà le Pérou, on va dire. Donc ça a commencé. Ensuite, il y a eu un premier gel parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Les écoles, la Fondation pour les écoles de musique a admis à intégrer des nouvelles structures. Les élèves ont augmenté. Du coup, la part du gâteau s'est réduite. Puis évidemment, on se tourne vers les enseignants. Il faut économiser. Et ensuite, on nous refait ça cette année. Donc cet automne, il y aura de nouveau pas d'augmentation. C'est-à-dire, il ne faut pas parler d'augmentation, c'est un rattrapage, en fait. Mmh. C'est de revenir à un niveau qui serait le niveau acceptable pour faire notre travail. Donc, finalement, on est très déçus parce que cette mesure d'application, elle marche un petit peu de manière chaotique et elle a la peine à se mettre en place. Alors, et ça, ça crée, c'est un sujet d'inquiétude pour l'avenir. Parce que est-ce qu'on a créé un système pérenne ou pas ? Et à ce moment-là, ça, c'est tout le système qui est remis en question.
Et quelles sont les conséquences maintenant ? Bon, j'imagine salariales, mais aussi un peu un gel du fonctionnement des écoles. Comment ça va se passer ?
Alors évidemment, parce qu'il y a un manque pour les écoles de musique, notamment cette fameuse votation du décembre dernier qui a coupé les subventions. C'est un décret qui a été violemment, on va dire, soutenu par le Conseil d'État contre les écoles de musique, et ça, de manière unanime, et ça, on le regrette très fort, parce que c'est un signal qui est très mauvais. Et là, on aimerait déjà, disons, agir pour sensibiliser de nouveau le Conseil d'État au fait qu'on n'est quand même pas des gens avec qui on peut faire des jeux politiques, parce que c'est ce qui s'est passé. On aimerait être pris au sérieux dans notre travail. Et finalement, là, maintenant, les écoles de musique sont dans une situation très précaire. Donc, les solutions, il n'y en a pas des quantités. Il y a donc, effectivement, le fait que les effectifs ne peuvent plus bouger pour l'année prochaine, mais il y a aussi la question des écolages. Est-ce qu'il faut monter les écolages ? Est-ce que ça doit être toujours plus cher pour les enfants pour rattraper ce que ne fait pas l'État ? Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'État doit jouer le jeu, et il doit le jouer jusqu'au bout, parce que c'était le vœu de cette loi dès le départ. Et c'est même mis dans le premier article que l'enseignement de la musique doit être accessible pour la majorité, pour tous les jeunes qui le désirent.
Oui, surtout qu'il y a un bassin de population énorme, je pense, et très populaire par rapport dans les écoles de musique.
Oui, puisqu'on a près de 15 000 élèves, donc ouais. C'est entre 12 et 15 000, mm-hmm. Les chiffres sont pas... Donc c'est quand même énorme.
Mais Loris, tu disais tout à l'heure, c'est paritaire, c'est une partie l'État et une partie les communes. L'État maintenant ne joue pas son rôle de financeur, les communes continuent de le faire mais...
Eh bien, les communes avaient mis au budget, donc pour l'année 2017, les montants étaient au budget, mais évidemment, quand l'État a fait le pingre, je dois le dire, ouais. Eh bien, les communes ont dit, bon, finalement, on n'a aucune raison de dépenser puisque l'État ne le fait pas.
Ouais.
Donc, on en est là.
Alors on peut te demander comment va être le futur, qu'est-ce que vous espérez, surtout maintenant, on est dans une période d'élection, il y a un changement probablement de dicastère, peut-être de personne, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Donc, la première chose, c'est de rencontrer la personne qui sera en place et chargée du dossier, de l'informer, de lui dire quelles sont nos attentes et de demander vraiment qu'il y ait un correctif qui soit fait le plus rapidement possible, que le système se remette en marche et qu'on arrive enfin à une loi qui soit effective et qui nous permette aussi de travailler de manière sereine et pas toujours de penser à qu'est-ce qui va se passer et quel est notre lendemain. Ça, c'est la chose la plus importante. Et puis, si ça ne marche pas, on va utiliser d'autres mesures. Donc, on allait lancer un préavis de manifestation. On s'est dit, on attend un petit peu le changement de régime, mais sinon, on va repartir, on va redescendre dans la rue et on ne lâchera pas le morceau.
Et bien, c'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Ne lâchez pas le morceau, tenez bon. Et puis, on vous souhaite plein succès. Merci, Loris, d'être venu nous parler ce soir des difficultés liées aux écoles de musique dans le canton de Vaud et dans la situation des quelques 700 enseignants et enseignantes précarisés par la non-augmentation des budgets pour l'enseignement de la musique. Je rappelle, Loris Sévokian, que vous êtes enseignant et concertiste depuis plus de 30 ans et que vous faites partie du syndicat des services publics dans le groupe de l'AVEM, l'association vaudoise des enseignants de musique. Belle suite à vous.
Merci beaucoup.
Et à 18h16, Valérie et Fabio, pour cette édition de la pause syndicale, on jette un coup d'œil aux brèves.
Yendi, 500 postes à la trappe. La chaîne de vêtements suisse Yendi, qui possède plusieurs centaines de boutiques en Suisse, dont certaines à Lausanne et dans le canton, devait tirer le rideau vendredi dernier. La société avait demandé la faillite à la grande surprise de certains employés à qui la direction prétendait que tout allait bien. Plus de 500 salariés, dont une centaine au siège de Bulle, vont perdre leur emploi. Mandatée par plusieurs vendeuses, Unia réclame notamment que toutes les recettes des ventes lors de la liquidation soient affectées au paiement des salaires, des heures supplémentaires et des vacances. Generali, plan social signé. Après deux demi-journées de grève et de longs mois de lutte et de négociations, les employés de Generali à Nyon, soutenus par Unia, ont trouvé un accord de plan social. L'assureur italien avait annoncé le 22 novembre dernier la délocalisation à Adliswil, dans le canton de Zurich, de 108 postes de travail sur les 340 que compte le site nyonnais. Lors de la consultation et les négociations qui ont suivi, 48 postes ont pu être sauvés à Nyon. Le plan social couvre l'ensemble des salariés, y compris ceux ayant déjà changé de travail. Il prévoit des indemnités pour les personnes perdant leur emploi et des mesures d'accompagnement pour celles ayant accepté d'être délocalisées à Zurich. L'Assemblée générale du personnel a adopté début avril le plan social par 60% des voix. Le 40% restant aurait souhaité obtenir des mesures plus conséquentes et était prêt à entamer des mesures de lutte pour y parvenir. Démantèlement des offices de poste. Le personnel en a assez. Fin octobre 2016, la Poste commençait à démanteler le réseau postal de manière radicale. Sur les 1300 offices de poste actuels, 500 à 600 devront fermer d'ici à 2020. Dans tout le pays, des milliers de signatures ont été récoltées dans les communes concernées. Le personnel a réagi à son tour avec presque 3000 signatures remises à la direction le 11 avril. Deux tiers des employés postaux ont signé une pétition qui exige aussi que le géant jaune propose enfin une stratégie et cesse de démanteler ses prestations tant que l'adaptation de la législation postale n'ait pas été débattue au Parlement. Une petite lueur d'espoir, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États se penchera le 11 mai sur cette question et un moratoire sur le démantèlement des offices pourrait être débattu.
Et on remercie Valérie et Fabio, nos deux chroniqueurs spécialistes du monde syndical, pour cette pause syndicale du 2 mai. Rubrique, faut-il le rappeler, réalisée en collaboration avec plusieurs sections syndicales de la région. Rendez-vous d'ores et déjà pour la prochaine, le mardi 6 juin. Et vous pouvez retrouver cette rubrique en podcast sur notre site www.django.fm.